Chers amis de RCF Vaucluse, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Père Georges.
Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la série Œcuménisme pour notre émission mensuelle Orthodoxie. Et nous nous disions que la diffusion de l'émission Anne-Marie tombait pile poil pour une de nos très grandes fêtes, une des toutes premières de l'année civile. C'est de loin pas la première de l'année liturgique qui commence au mois de septembre. Et nous parlons donc de théophanie.
Voilà.
Alors théophanie, peut-être on pourrait revenir sur le sens du mot.
Alors c'est un mot qui vient du grec, de deux mots, théos qui veut dire Dieu et phaino qui veut dire montrer. Donc montrer Dieu. C'est pour ça que c'est la manifestation de Dieu qui se manifeste aux hommes. En fait, il s'agit d'une rencontre divino-humaine. Et alors, cette théophanie dont nous allons parler aujourd'hui, elle s'inscrit dans les théophanies de l'Ancien Testament.
Oui.
D'abord, la visite des trois anges à Abraham, qui annonce la naissance d'Isaac, qui est le début de la liste des ancêtres du Christ.
Oui.
Ensuite, le buisson ardent, où Moïse reçoit la mission de libérer le peuple hébreu de l'esclavage des Égyptiens, et ensuite le Sinaï, où le peuple hébreu, libéré donc de cet esclavage, reçoit les tables de la loi. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une progression. Voilà.
Et oui, donc, alors, peut-être sur ce point précis, j'espère ne pas vous couper le fil, comme on dit, mais théophanie, plus largement, s'emploie d'ailleurs dans le vocabulaire religieux orthodoxe pour les manifestations de Dieu.
Oui, tout à fait. Hein, oui,
voilà.
Oui.
Alors effectivement, celles-ci sont celles de l'Ancien Testament. Voilà. Oui, oui. Pardonnez-moi. Oui.
Non, non. Mais même dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres.
Mais bien sûr.
Donc, la théophanie dont nous allons parler aujourd'hui, elle a deux aspects. Le premier, c'est la mission salvatrice de Jésus qui va se poursuivre par notre baptême, et la deuxième, c'est la manifestation de la divine Trinité.
D'accord. Alors peut-être sur le premier aspect qui est la mission salvatrice de Jésus-Christ, donc qui se poursuivra par notre propre baptême.
Voilà,
peut-être il faut essayer de comprendre un peu de quelle nature est cette mission salvatrice à travers le propre baptême du Christ.
Eh oui, je voulais dire avant que en fait ce baptême du Christ s'inscrit dans les pratiques juive religieuse de l'époque.
Oui.
Parce que en fait, il s'agit d'une purification des péchés.
Oui.
Dans un premier temps,
oui, oui.
Pour tout un chacun, pour le Christ, ça sera différent. Mais
on fait donc là un distinguo entre en fait le baptême précédent qui était un baptême de purification, qui était un rite en fait, et ce baptême-ci qui est un baptême de repentance, enfin.
C'est-à-dire le baptême de purification pour les Juifs, ça ne se fait pas constamment pour tout le monde. Parce que ce qu'il y a pour tout le monde, c'est le jour du grand pardon, Yom Kippour, où toutes les personnes demandent pardon. Mais pour les fautes très très graves, il y a plongé dans l'eau qui s'appelle un mikvé, dans l'eau courante.
Oui.
Donc Jean-Baptiste s'inscrit dans cette cette mouvance, si jamais il y a des personnes, lui, peut-être il considère qu'il y a des grosses fautes dont il faut se laver. Donc, il propose ce baptême de repentance.
D'accord. Et alors, le support concret, en fait, de cette mission salvatrice, c'est l'eau.
Voilà, c'est l'eau.
Alors, l'eau
alors,
du...
Oui.
Oui, je vous en prie. Non, mais je vous en prie, on peut.
Non, mais l'eau, en fait, depuis le début de l'histoire biblique, eh bien, elle a toujours été soit un tombeau, soit le lieu d'une nouvelle naissance.
Oui.
Pour Noé, c'était le lieu d'une nouvelle naissance dans l'arche, mais pour ses autres contemporains, ça a été un tombeau. Ensuite, à la mer Rouge, pour le peuple hébreu, ça a été une nouvelle naissance. Quand il en est sorti, les os sont écartés.
Et ça a été un peu moins bien pour les Égyptiens.
Un tombeau, ça a été... Bon, pour Pharaon et ses chars, comme on dit, ça a été un tombeau.
Oui.
Donc, il y a toujours ce double aspect de mort et de vie, et de vie et de résurrection.
Oui.
Et donc Jésus s'inscrit dans cette, bien que complètement différemment.
Et on pourrait même rajouter quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement. Parce que, et l'esprit était
tout
sur
fait,
les eaux.
Tout à fait,
c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, l'eau, elle est tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous savons d'un point de vue scientifique que c'est de l'eau que vient la vie, que jaillit la vie.
Tout à fait. Donc, la manière dont Jésus s'inscrit dans ce processus de mort et de résurrection, pour ce qui est au sujet de la mort, eh bien, on pourrait s'étonner que Jésus se mette dans la foule de tous les juifs pécheurs qui viennent se purifier avec le baptême de repentance que prêche Jean-Baptiste. On peut s'étonner, lui qui est sans péché.
Oui.
Mais, voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il veut prendre sur lui, il ne veut pas intégrer les péchés, mais uniquement les conséquences du péché, c'est-à-dire la mort, pour justement... et libérer les hommes de leurs péchés pour les amener à la vie.
Oui, oui. Mais je pense que effectivement, dans le sens de cet acte, le fait que le Christ se présente finalement lui-même comme un pécheur qu'il n'est pas, lui fait porter, porter effectivement. Tout ce qui précède. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque on fait cette fête, nous venons de vivre il y a quelques jours la Nativité, qui est une belle fête devenue très populaire avec un symbolisme marchand qui échappe un peu à la spiritualité, dont acte. Et nous lisons juste avant la généalogie du Christ.
Oui.
Et dans la généalogie du Christ, qui crée la connexion entre Jésus et David et Abraham plus loin, il y a toute l'humanité avec
tous leurs défauts.
Voilà, tous ces particularismes, qui a tué qui a enfanté de quelqu'un qui n'était pas le mari d'une femme qui n'était pas l'épouse, etc. Donc, effectivement, je crois que c'est intéressant.
Voilà, et donc Monseigneur Antoine Blum le dit de façon très belle, je trouve. Vous voulez nous le lire, Père Georges ?
Oui, alors, Monseigneur... Le Christ alors s'unit non pas au péché, mais aux conséquences du péché, y compris la mort elle-même. Il meurt de notre mort, lui qui est la vie éternelle.
Voilà.
Alors Monseigneur Antoine Blum, qui s'est éteint il y a une vingtaine d'années, je pense, a produit de nombreux écrits.
Oui, il s'agit du livre « La rencontre avec le Dieu vivant ».
Voilà, et c'est un type de lecture, lui, Monseigneur Callistos Ware qui sont des livres très faciles d'accès et qui sont une vraie théologie du cœur, en fait.
Oui, tout à fait.
Oui. Alors.
Donc Jésus-Christ, en entrant dans le Jourdain, le purifie en prenant sur lui les péchés, en portant, comme vous disiez, les péchés des hommes et les délivrer de la mort. Et pas uniquement les hommes de son époque, tous les hommes, finalement.
Oui. Alors, on revient un instant sur cette idée de délivrer de la mort qui, dans la représentation populaire, fait parfois l'objet d'interprétations qui ne sont pas toujours, toujours tout à fait justes sur le sens. Il nous délivre de la mort en nous rouvrant l'accès à Dieu dans l'ouverture de la vie éternelle, en fait. C'est bien de ça qu'il s'agit.
Bien sûr.
De la même façon, peut-être dire aussi à nos amis auditeurs, mais ils sont généralement formés, ceux qui écoutent RECF, aux choses de catéchétiques un peu basiques, mais peut-être on peut le répéter, il y a souvent une incompréhension quand on dit « mais puisqu'on a été délivré de la mort et qu'on a été sauvé par le Christ, pourquoi le péché demeure ?» Voilà. Et effectivement, il nous a sauvés de la vie, mais notre état d'être corruptible demeure.
Et oui, il nous a laissé la liberté, donc la liberté de faire bien ou mal.
Peut-être pour revenir un instant sur la mort autour du baptême, la symbolique de la mort, c'est la triple immersion.
Voilà.
Cette immersion dans laquelle on meurt un instant, la respiration s'arrêtant, et on renaît chaque fois. Et donc c'est notre propre résurrection,
tout
le baptême, d'un point de vue...
Ou gage de notre résurrection.
Absolument.
Et je voulais dire que dans les icônes, dans certaines icônes, pas toutes de la théophanie, on peut voir dans l'eau du Jourdain, on peut voir des animaux plus ou moins monstrueux qui symbolisent donc les péchés des hommes.
Qui restent dans l'eau, qui partent, avec
voilà,
l'eau, entre guillemets, qui lavent l'homme.
Oui. Et alors, j'ai parlé du Jourdain, parce qu'effectivement, ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est l'eau du Jourdain. Peut-être on l'avait déjà dit dans une autre émission, mais bon...
On peut répéter les choses un peu essentielles.
Le mot Jourdain en hébreu est très parlant parce qu'il se dit Yarden. Il est formé de quatre lettres, dont les trois premières, Yarad, veut dire descendre, et dont la troisième, le Noun, a pour symbole le poisson. Donc, comme on sait que le poisson, en passant par le grec, est un symbole de Jésus-Christ, eh bien, dans le mot Jourdain, on peut lire « le Christ descend ».
Le Christ descend, oui. Ça, c'est la magie de votre connaissance de l'hébreu qui nous éclaire. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Donc, c'est des choses qu'on sait, mais je trouve que c'est intéressant de voir que dans les noms eux-mêmes racontent l'histoire.
Oui, absolument. Mais ça, c'est très propre à l'hébreu.
Ah, tout à fait. Hein,
ça n'existe pas dans d'autres...
Ce qui me réjouit le cœur.
Oui, tout à fait. Nous poursuivons, après avoir entendu un chant liturgique de nos frères chrétiens d'Irak, qui célèbrent avec nous d'ailleurs la théophanie. Dans le prolongement de ce sur quoi nous échangeons, nous venions de nous quitter sur le sens du mot « Jourdain ». Hein, nous revenions dessus, on aurait même pu un peu prolonger sur le sens du poisson, qui est le symbole de Jésus, peut-être très rapidement.
C'est en grec, le poisson se dit « ictus », et c'est l'anagramme, c'est-à-dire les lettres d'une première phrase qui est « Jésus-Christ sauveur ».
« Jésus Christus, Theo, Uiothoter ».
Dieu sauveur,
voilà. Dieu sauveur, voilà. En grec ancien, précisons, parce qu'en grec moderne, poisson se dit « psari ».
D'accord.
Voilà. Alors, nous évoquons peut-être, dans ce mystère baptismal dans lequel Jésus s'approche du précurseur pour se faire baptiser, il y a la manifestation de la divine Trinité.
Voilà, tout
Alors,
à fait.
Alors, je crois que quand même on pourrait quelques mots.
Excusez-moi,
oui, je vous en prie.
On avait parlé de l'aspect mort pour Jésus.
Oui.
On n'avait pas parlé de l'aspect naissance. Donc,
c'est vrai.
Donc, juste un mot, si vous regardez l'icône, on peut imaginer, bien sûr, le Christ est debout, mais on peut l'imaginer couché comme dans un tombeau, c'est peut-être pas le mot, dans une poche d'eau. Et les deux rochers qui l'encadrent, on peut imaginer donc qu'il va y avoir une naissance par cette fente des rochers.
Oui, oui, un peu, un peu comme le bébé dans le liquide amniotique va franchir la porte pour trouver le souffle de la vie.
Voilà, exactement. Et ça sera effectivement le début de sa vie publique, du choix des apôtres et de son message évangélique.
Vous soulignez là un point important, c'est qu'effectivement les icônes sont toujours chargées sens très, très, très important et d'un très grand symbolisme qui était en d'autres temps utilisé
pour faire la catéchèse,
comprendre au peuple. Oui, tout à fait.
Donc la divine, la deuxième, on en a fini avec la mission salvatrice.
Oui.
On en a fini. On a fini d'en parler
ce matin. Oui, tout à fait.
Le deuxième aspect, c'est la manifestation de la divine Trinité.
Et on la voit, je crois, dès le Premier Testament.
Dès le Premier Testament, dès le premier chapitre de Genèse, puisqu'il est question du jour 1, où on voit le Père créateur dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, on voit le souffle où l'esprit plane sur les eaux. On reviendra sur le mot plane plus tard. Et après, il y a l'apparition de la lumière qui est essentiellement liée au Fils. On le retrouve dans le prologue de Jean. Oui. Il le dit lui-même, Jésus, je suis la lumière du monde.
Oui, voilà, absolument.
Donc, dès les premiers versets, on devine la divine Trinité en filigrane.
D'accord.
Alors, je ne vais pas résister au plaisir de vous dire qu'on trouve aussi presque une icône de la divine Trinité avec la première lettre hébraïque. Parce que le Aleph, c'est une lettre qui est formée, même dans le monde juif, c'est comme ça qu'il la considère, une lettre formée de trois lettres. C'est une lettre en trois lettres.
Quel dommage que nos amis auditeurs soient privés des gestes, Anne-Marie. Mais je vous en prie.
Voilà. Et donc, ça ne peut pas ne pas nous parler, bien sûr. D'autant plus que cette lettre, c'est un silence.
Oui.
Donc, aucun humain n'aurait idée de commencer un alphabet par une lettre qui ne se prononce pas.
D'accord.
On n'entend que la voyelle qu'on met dessous.
D'accord.
Voilà. Et alors, c'est peut-être un petit peu... chaque lettre a une valeur numérique. Et la valeur numérique de Aleph, c'est 1. Mais la valeur numérique pleine, c'est-à-dire en prenant la valeur de chaque lettre du nom de la lettre, on trouve 111. 1, 1, 1.
D'accord.
Donc, quand on découvre ça et qu'on est chrétien, forcément...
Oui. Ben oui.
Ça parle.
C'est la Trinité en un.
Voilà, tout
c'est
à fait.
C'est la Trinité en un, voilà. oui, tout à fait. Et puis peut-être, Aleph, je crois, est la première lettre de Elohim.
Oui, tout à fait, Elohim et de Adam.
Et de Adam.
Mais c'est parce qu'on n'entend que la voyelle,
d'accord.
Et dans un cas, et A dans l'autre.
D'accord, ok, bien.
Et donc, on a un autre, la divine Trinité s'est un petit peu manifestée aussi au moment dans Genèse 18, de 1 à 3, quand Abraham accueille les trois visiteurs, qu'on appelle des anges, qu'on appelle des hommes, enfin qui sont des envoyés divins.
Oui, on n'est pas formel sur la nature.
Voilà, mais on sait que c'est des envoyés divins. D'ailleurs, André Roubleff a fait une très belle icône à ce sujet. Et alors, Abraham, comme s'il avait la prescience de Dieu 3 et 1, il voit trois personnes et il dit Seigneur au singulier. Donc, c'est aussi assez étonnant.
Absolument. Mais c'est aussi dans ces... j'aime beaucoup quand vous renvoyez aux origines de l'Écriture, parce que c'est... on s'aperçoit que les choses sont annoncées proclamées dès le début.
Oui.
Et il fallait pouvoir les voir. Les aurions-nous vus si... Mais Jésus est venu.
Voilà.
Et nous avons vu.
Et oui, tout à fait. Donc, on peut peut-être lire le passage de Matthieu.
Ah ben oui, Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. « Les cieux s'ouvrirent et il vit... » On parle de Jean-Baptiste, bien sûr. L'Esprit, on trouve aussi le souffle comme terme, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais.
Voilà, donc c'est très court, mais finalement, c'est très dense comme,
oui.
comme expression, parce qu'on a la voix du Père.
Oui.
Et la présence du Fils. Et la manifestation de l'Esprit.
Oui, mais là, c'est vraiment la manifestation divine. La manifestation,
voilà,
elle est réelle à travers ce qu'a dit le Fils, mais à travers l'apparition de la colombe, et
voilà.
puisque ce que dit le Père.
Voilà. Et je voulais dire que le mot colombe, le fait que l'Esprit se matérialise sous forme de colombe, en fait, c'est déjà annoncé dans le Premier Testament, tout au début, parce que j'avais traduit l'Esprit souffle sur les eaux. Mais en fait, le mot « souffle » en hébreu, « mirarefet », eh bien, veut dire « voler doucement au-dessus du nid des petits ». Donc,
ce qui rejoint planer.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Donc, et en français, on ne le voit plus, planer sur les eaux, c'est assez froid.
Oui,
tandis
oui,
que
oui. «
mirarefet », ça parle beaucoup plus.
D'accord.
Et ça rejoint le côté oiseau, justement.
Oui, oui.
Maternel et...
Parfait. Alors, il nous reste relativement peu de temps pour conclure. Finalement, il y a deux significations. L'histoire du Jourdain qui remonte en arrière.
Alors là, on le trouve dans deux psaumes, dans le 77. Les eaux te virent, ô Dieu, et se furent bouleversées. Et dans le psaume 114, qu'as-tu, mère, à t'enfuir, à retourner en arrière. Mais en fait, il s'agit des psaumes. Donc, bien sûr, ça va annoncer peut-être ce qui va se passer pour le Christ au Jourdain. Mais en fait, c'est pas le début. Au début, c'était donc, il s'agissait du peuple hébreu qui allait traverser le Jourdain. Vous pourrez aller le voir, c'est dans Josué 3, 16. Les eaux s'amoncelaient en avant et étaient coupées en arrière. Enfin, il y a eu... les eaux se sont écartées pour que le peuple hébreu puisse passer. Je trouve que c'est important de voir qu'on a deux lectures. La lecture strictement Premier Testament et après son prolongement dans l'Évangile. D'ailleurs, son prolongement dans l'Évangile, ça n'est pas dans l'Évangile. C'est uniquement la tradition orale que le Jourdain retourne en arrière.
Oui.
On n'a rien dans l'Évangile.
Oui, oui.
Donc,
oui.
On voit bien, à cet exemple-là, l'importance de la tradition orale.
Certes, certes. Qui est très importante dans la tradition orthodoxe aussi.
Tout à fait.
Parce que nous avons de nombreux récits d'anciens qui ont été des transcriptions faites par ceux qui ne l'avaient pas écrit, mais ça a été rapporté.
Voilà, tout à fait.
Effectivement.
Tout à fait.
Peut-être pour conclure, quelques mots de conclusion pour revenir sur l'icône de la théophanie.
Eh bien, oui, pardon.
Oui.
On voit en fait la divinité du Christ, elle transparaît dans l'icône, d'abord par la lumière qui émane,
oui.
de toute l'icône, et aussi par l'inclinaison à la fois de Jean-Baptiste, des rochers, même des anges qui s'inclinent respectueusement devant Jésus.
Oui, oui. Alors on voit bien le symbolisme parce que des rochers ne s'inclineraient
bien,
pas.
Bien sûr.
Mais la nature elle-même,
oui.
la nature
voilà.
elle-même
oui.
Ploie et s'incline
voilà.
devant
oui.
le Seigneur. Créateur de toutes choses,
ouais.
toutes choses, donc de l'homme, des rochers, des,
voilà.
des plantes et des animaux. Oui. Eh bien, peut-être sur une phrase de conclusion, tu es apparu aujourd'hui au monde entier, Seigneur, et la lumière nous a marqués de son empreinte. Nous qui te chantons en toute connaissance, tu es venu, tu es apparu, lumière inaccessible.
Voilà, c'est le condamnation.
C'est effectivement l'une des prières que nous allons chanter pour la fête de la Théophanie, qui est le condamnation. Et après cette dernière phrase, je voudrais vous dire, Anne-Marie, merci encore de nous amener vos éclairages qui lient notre foi d'aujourd'hui à la foi des pères.
Merci, merci de pouvoir les exprimer.
Amen. Christ est ton.